Vous écoutez le Modèle Standard, un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve.
Aujourd'hui, ensemble, pigeons voyageurs.
Deuxième partie.
Alors on a construit des sondes, on a mis tous les instruments qu'il fallait dessus, on a calculé les trajectoires et ben finalement il n'y avait plus qu'à les lancer.
Ah, et donc c'est ce qu'on a fait.
En 1977, en fait on a lancé d'abord Voyageur 2 et un mois après Voyageur 1.
Tout à fait logique.
Oui en fait, parce que Voyageur 1 est parti sur une trajectoire plus courte, plus rapide, et donc c'est elle qui est arrivée la première à côté de Jupiter.
Ah,
d'où son numéro.
Et alors qu'est-ce qu'elle a vu?
Elle a vu plein de choses. Le plus remarquable, quand même le plus spectaculaire, c'est qu'elle a découvert que Jupiter avait des anneaux.
Eh ben oui.
À l'époque, on connaissait que ceux de Saturne. Et ça, ça a vraiment été une révélation.
Donc ça y est, on a vu les anneaux de Jupiter?
Tout juste. C'est-à-dire que Voyageur 1 a pris une photo, pas très jolie, mais enfin, juste suffisante pour qu'on puisse voir qu'il y avait effectivement, clairement, des anneaux autour de Jupiter. Donc ça, c'était quand même le premier résultat très très important. Mm-hmm. Sinon, elle a confirmé un certain nombre de choses. Par exemple, la grande tache rouge de Jupiter, tu la connais?
Ah bah oui, oui.
On la connaissait depuis longtemps. Hein. Cassini l'avait observée déjà au XVIIe siècle. On ne savait pas très bien ce que c'était. Alors l'hypothèse la plus couramment admise, c'est que c'était un anticyclone, comme une tempête, des vents qui tournent à toute vitesse. Mmh. Et Voyageur, de près, a confirmé qu'effectivement, c'était bien ça. Donc bon, ce n'était pas une révélation, mais pour les astronomes, c'est évidemment très intéressant de confirmer leur hypothèse. Mmh. Elle a observé aussi les satellites de Jupiter.
Ah.
Alors là, on a fait des découvertes. La plus remarquable, quand même, c'était sur le satellite le plus proche de Jupiter, qui est Io.
Io.
Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a découvert dessus? Un volcan.
Ah.
Et puis, pas de la rigolade, hein, un volcan qui projette un panache à 150 km de hauteur.
Ah ouais, une éruption volcanique dans l'espace.
Alors, on n'a rien qui soit aussi puissant que ça sur Terre. Mais de toute façon, c'était la première fois qu'on découvrait un volcan ailleurs que sur Terre.
Ah oui.
Sur la Lune, sur Mars, il y a des cratères, mais ce n'est pas des cratères volcaniques. Hein, c'est des météorites qui sont tombées dessus. Donc ça, c'était quand même une découverte tout à fait inattendue. On ne savait pas du tout s'il y avait du volcanisme ailleurs que sur Terre.
Et les autres satellites de Jupiter?
Alors, il a observé tous les satellites galiléens, hein, les quatre plus gros, ceux qui ont été découverts par Galilée. Mm-hmm. Sur Europe, par exemple, le deuxième, il a trouvé des fissures, des crevasses énormes. Donc, ça veut dire qu'il y avait une activité, que le sol n'est pas figé comme sur la Lune. Mm-hmm. C'est intéressant aussi. Et puis, en dehors des satellites galiléens, il en a découvert un certain nombre de plus petits, qu'on n'avait pas vus encore au télescope depuis la Terre.
D'accord.
Donc, pas mal de découvertes vraiment inattendues. Mm-hmm. Alors tout ça, en fait, c'est des choses qu'on a revues depuis, bien sûr, hein, depuis la Terre pour un certain nombre de choses. Et puis aussi, il y a eu une mission dans les années 1990 qui s'appelle Galileo, qui, elle, s'est mise en orbite autour de Jupiter et qui est restée pendant des années à observer Jupiter et ses satellites.
Ah oui, donc là, tu peux détailler beaucoup plus.
Il y a deux types de missions planétaires, hein, les missions de survol, comme celle de Voyager, où on passe quelques jours ou même quelques heures à proximité d'une planète à l'observer. Et puis les missions de mise en orbite, où là on reste pendant des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années autour d'un astéroïde. Ça n'apporte pas du tout les mêmes choses. Une mission de survol, c'est quand même plus simple à mettre en place. Et puis surtout, là, ça a permis de voir plusieurs planètes dans la même mission.
Ouais, c'est comme les touristes qui vont voir, hop, un petit coup la Tour Eiffel, hop, un petit coup l'Arc de Triomphe, et puis hop, on continue.
Voilà, ils reviennent en ayant vu 3 ou 4 pays différents, donc ils ont vu beaucoup plus de choses, mais beaucoup moins en détail.
D'accord.
La mise en orbite, c'est aller séjourner dans un pays, on le connaît bien, mais on ne connaît rien d'autre.
Et donc là, Voyager, il a repris son bus, et puis il est parti vers Saturne.
Bah, son bus d'assistance gravitationnelle, voilà. Hein, je te l'avais expliqué, qu'il a renvoyé à toute vitesse vers Saturne.
Ouais.
Et là, il est pareil, il fait des observations. Alors, il n'y a pas eu de découverte vraiment révolutionnaire pour le grand public, mais il y a eu quand même des choses très intéressantes pour les astronomes. Par exemple, les vents dans l'atmosphère de Saturne sont beaucoup plus forts que ce qu'on pensait.
Ah.
Des vents très violents. Même la composition de cette atmosphère, on savait que c'était un mélange d'hydrogène et d'hélium, mais Voyageur a mesuré moins d'hélium que ce qu'on attendait. Donc, c'est des choses qu'il faut expliquer hein, dans les modèles de formation planétaire. Ça donne des contraintes sur les théories. S'il y a un truc assez amusant, c'est les aurores boréales, tu sais, qu'on a sur Terre.
Au pôle.
Voilà, on a des lumières assez magiques hein, dans l'air qui sont dues en fait à des particules chargées électriquement qui arrivent dans l'atmosphère et qui interagissent avec le gaz.
Et il y en a aussi sur Saturne, alors ?
Alors, il y en a sur toutes les planètes, mais sur Saturne, il n'y en a pas seulement près des pôles. Il y en a presque partout sur la planète. C'est un peu comme si on voyait des aurores polaires en France.
Ah.
Et ça, on ne savait pas vraiment l'expliquer. C'était une découverte assez inattendue.
D'accord.
Donc voilà, pas mal de petites choses comme ça.
Et il a vu des satellites, alors, aussi, comme pour Jupiter ?
Oui, tout à fait. Et en particulier, alors là, ça, c'est vraiment intéressant, le plus gros satellite de Saturne, qui s'appelle Titan. Et lui, on savait qu'il y avait une atmosphère, et on avait très envie d'en savoir plus. C'est une atmosphère qui est vraiment riche, avec des nuages, de la pluie, il se passe plein de choses. Mmh. Alors, il y a eu un arbitrage, une décision qui n'était pas facile à prendre. Il y avait deux trajectoires possibles, avec des petites corrections de trajectoire, on pouvait faire passer Voyager d'un côté ou de l'autre de Saturne.
Ouais.
Alors, dans un cas, l'avantage, c'est que ça aurait donné une assistance gravitationnelle qui leur aurait permis de continuer vers Pluton.
Ah.
Et ça, Pluton, on la connaissait vraiment très très mal, on a du mal à l'observer depuis la Terre.
Ouais.
Donc il y avait des gens qui proposaient ça. Et l'autre possibilité, c'était de tourner dans l'autre direction et de survoler Titan de très près.
Ah.
Et là, de pouvoir vraiment observer son atmosphère, prendre des photos très très précises.
Ouais.
Et finalement, c'est cette deuxième option qui a été choisie. Donc on a renoncé provisoirement à Pluton.
Il y
a
tout ça pour Titan.
Il y a eu une mission bien plus tard qui est partie vers Pluton. Mais celle-là, en observant Titan, on a effectivement confirmé qu'il y a de la pluie, des liquides, des nuages, etc. Mais ce n'est pas de l'eau comme sur Terre, c'est du méthane.
Ah.
Comme on est très loin du Soleil, il fait beaucoup plus froid. Et donc le méthane, au lieu d'être un gaz, est liquide. Et donc il y a tout un cycle du méthane sur Titan qui ressemble tout à fait au cycle de l'eau sur la Terre.
Ah, ah ouais.
En plus, on a obtenu des renseignements très très précis parce que Voyager est passé derrière Titan. C'est-à-dire du côté opposé au Soleil.
Ouais.
Et donc pendant un instant, il a vu Titan entre le Soleil et lui, ce qui veut dire que la lumière du Soleil traversait l'atmosphère de Titan avant qu'il la voie.
Ah.
Et quand la lumière traverse l'atmosphère, il y a une partie qui est absorbée, et suivant ce qui est absorbé, ça nous donne plein de renseignements sur cette atmosphère, sa composition, sa température, sa pression. Mmh. Donc c'est le principe de l'occultation. En observant le Soleil à travers Titan, en quelque sorte, Voyager a appris beaucoup de choses.
Ouais.
Et dans l'autre sens, elle nous envoie des ondes aussi, des ondes radio.
Ah, bah oui.
Et c'est pareil, au moment où elle est passée derrière Titan, juste avant qu'elle disparaisse, elle nous a envoyé des ondes qui ont traversé l'atmosphère. Et ces ondes-là, on les connaît très bien, puisqu'elles sont artificielles. Hein. C'est l'émetteur qui est sur Voyager, on le connaît parfaitement.
Et du coup, on peut faire pareil, nous.
On peut faire pareil, nous. En regardant les ondes qui nous parviennent, comment elles ont été modifiées par l'atmosphère, ça donne encore des informations en plus.
D'accord. Et donc, du coup, comme ça, maintenant, on connaît super bien Titan, alors.
Alors, on connaissait déjà pas mal, maintenant on le connaît beaucoup mieux parce qu'il y a une autre mission depuis, une mission cette fois de mise en orbite, la mission Cassini-Huygens. Cassini, c'est le vaisseau qui s'est mis en orbite autour de Saturne et qui est resté pendant des années et qui nous a appris plein de choses.
Mmh.
Et Huygens, c'est le petit module qui s'est détaché et qui allait carrément se poser sur Titan.
Ah ouais !
Il est descendu à travers cette atmosphère, donc en faisant plein de mesures, en prenant plein d'images, et s'est posé sur le sol. Et là, on a quelques photos du sol de Titan où on voit des montagnes et des lacs. On a vraiment l'impression, à certains endroits, de paysages terrestres.
Ouais.
Et en fait, c'est des lacs de méthane,
méthane
liquide.
Ok.
Et donc, cette mission Cassini-Huygens a vraiment été préparée par Voyager. Bon, même si elle nous a appris beaucoup plus de choses, elle n'aurait sûrement pas aussi bien réussi si Voyager n'avait pas ouvert la voie.
Mais à quel prix ? Parce que du coup, elle a été détournée, elle est partie en plein sève, quoi.
Ah oui, là, elle a quitté le plan de l'écliptique, là, le plan où il y a toutes les planètes, tout ce qui tourne autour du Soleil. Donc, il n'y avait plus grand-chose à voir. D'ailleurs, on a éteint les appareils photo, hein, puisqu'il n'y avait plus rien à prendre, plus de planètes à survoler. Mmh. Par contre, on a gardé en marche les instruments qui mesurent le champ magnétique, les particules. Donc, ça nous a quand même appris des choses sur ce qu'il y a dans l'espace, dans le système solaire, en dehors des zones qu'on avait déjà visitées. Et puis, elle a continué à s'éloigner, donc... Je te rappelle que Saturne est à un peu plus de 9 unités de distance astronomique, hein, 9 fois la distance Terre-Soleil de nous. Et Voyager 1 a continué à s'éloigner. Et puis, une fois qu'elle est arrivée aux alentours de 30 unités, donc bien plus tard, elle a quand même eu un petit réveil un moment. Carl Sagan, tu sais, l'astronome qui avait choisi le contenu du disque pour les extraterrestres,
oui.
Il a réalisé que de là où elle était, en fait, elle avait, puisqu'elle était sortie du plan du système solaire, elle était bien placée pour avoir une vue d'ensemble et qu'elle pouvait pratiquement voir toutes les planètes en même temps.
Ah.
Il s'est dit que ce serait une occasion formidable de prendre une photo où on verrait l'ensemble du système solaire. Puisque nous, quand on est dedans, on ne peut jamais voir tout l'ensemble.
Oui.
Donc, il a négocié ça avec les ingénieurs de la NASA, qui ont finalement accepté de rallumer l'appareil photo, qui n'avait pas servi depuis des années, d'utiliser un petit peu d'hydrazine pour remodifier l'attitude de la sonde pour qu'elle pointe de nouveau son appareil photo vers ce qu'elle venait de quitter.
Ouais.
Et là, elle a réussi. Alors, on ne pouvait pas avoir toutes les planètes sur une seule photo, elles sont quand même beaucoup trop éloignées. Donc, elle a fait une soixantaine de photos qu'on a ensuite assemblées en une mosaïque sur lesquelles on voit, alors malheureusement pas toutes les planètes, parce qu'il y en a qui étaient vraiment de l'autre côté, mais on voit très bien Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et puis un petit point bleu pâle, ce qu'on appelle le pale blue dot.
C'est nous.
C'est nous, c'est la Terre.
Ouais, c'est un peu comme si, pendant qu'elle était sur le chemin du départ, elle nous envoie une petite carte postale.
Ouais, alors c'est même un peu plus une carte postale. Si tu penses à la date à laquelle elle était envoyée, c'était en 1990, ouais. Et plus exactement le 14 février. Valentin, ça te dit quelque chose le 14 février?
Ah, d'accord, c'est la carte du 14 février.
Oui, oui, une Valentine, comme on dit en Amérique. Hein.
Ah oui, les cartes de Valentine. Il y a d'ailleurs un très célèbre thème de jazz, My Funny Valentine, là-dessus.
Eh ben, on fera peut-être un autre épisode. Hein, mais... Alors, cette photo est très, très célèbre. La photo d'ensemble, on l'appelle le portrait de famille. Et en particulier, le pale blue dot, le petit point bleu pâle, que Carl Sagan a complètement monté en épingle. Il a même fait quelques années après un livre entier qui s'appelle Pale Blue Dot,
ouais.
Et qui est un très beau livre. Il a pris ça comme symbole vraiment pour montrer que la Terre, alors à la fois que la Terre est vraiment toute petite hein, quand on la voit de loin, Il y a un très beau texte dans son livre qu'on peut trouver d'ailleurs en audio aussi sur internet, où il explique que bah, tout ce que vous connaissez, tous les gens que vous connaissez, tous les endroits où vous êtes allés, les bons, les méchants, les anciens, les modernes, tous les endroits où les gens se sont battus, ont fait des guerres pour conquérir un petit bout de territoire, etc. Tout ce qui existe, tout ce que vous connaissez, bah, c'est sur ce petit point.
En fait. C'est un pixel. Donc,
à la fois, c'est un message d'humilité, bien sûr, hein, de se dire que finalement, tout ce à quoi on accorde tant d'importance, bah, quand on prend un peu de recul, c'est plus grand-chose. Et puis il y a aussi un message écologique derrière, c'est-à-dire c'est tellement fragile, ce petit point perdu au milieu de l'espace, il faut le préserver, on ne peut pas se permettre de le détruire.
D'accord.
L'écologie n'était pas encore aussi établie dans la culture collective qu'elle l'est aujourd'hui, et Carl Sagan était un peu un de ses promoteurs à partir de ça.
Ok.
Tu nous fais un autre couplet maintenant ?
Alors, ben d'accord. Donc, « To us Jupiter »
en direction de Jupiter.
It's red but any tree.
Sa tache rouge et ses anneaux.
Galilean moon.
Les lunes galiléennes.
Where volcanic fume springs.
Où la panache volcanique surgit.
Onwards to Saturn.
On continue vers Saturne.
Bathe in strange radiation.
Baigné dans d'étranges rayonnements.
Let's visit Titan.
Allons visiter Titan.
For a few.
Pour une future mission.
Alors là, je commence à vraiment essayer de faire ma propre version. Il faudrait peut-être parler un tout petit peu du plan tonal dans Maiden Voyage quand même.
Du quoi?
Bah, le plan tonal en musique savante, c'est ce qu'on appelle le schéma des modulations, des différentes tonalités par lesquelles on passe. Autrement dit, par exemple, si au début de mon morceau, j'utilise la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et que, ben, au bout d'un moment, je change de gamme, je change de tonalité, et les notes que j'ai utilisées, c'est par exemple la gamme de Mi majeur, Fa, Sol, La, Si, Do, dièse, Mi. Ça veut dire que j'ai changé de gamme, j'ai changé de tonalité, les notes que j'utilise, les accords que j'utilise sont tous extraits de cette tonalité-là. C'est bon?
D'accord.
Or, comme là, on va être dans du jazz modal, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est plus simplement faire succéder un accord à un autre, c'est toute la gamme qu'on change, tout le stock de notes qu'on peut utiliser, puisque tes accords, ils font 7 notes différentes, bah, finalement, tu changes la gamme entière. Quoi. Donc le plan tonal dans Maiden Voyage, il est très intéressant parce qu'il est extrêmement resserré. Au début, ça tourne autour de Ré, hein, je t'avais dit.
Ré, Fa, La.
Ré, La, Demi, Sol, hein, le fameux accord suspendu. Après, de cet accord-là, on va aller sur donc, le la même succession intervalle, le même accord, mais en partant de Fa. Ok ?
D'accord.
Donc, j'ai été de Ré vers Fa, mais c'est des notes qui sont relativement proches quand même. Hein. Le Ré et le Fa, bon, t'as le Mi entre, mais
oui. Voilà.
Le Mi et le Mi bémol. Alors, de Ré, il passe vers Fa, et puis après, il va revenir sur Ré et revenir sur Fa. Donc déjà, il a fait deux fois la même chose. Et après, pour changer un tout petit peu, la troisième fois, il va aller sur Mi bémol, mais c'est toujours le même accord, mais on est toujours dans la même zone, tu vois, entre Ré et Fa. Mi bémol, et après il va aller vers Ré bémol.
Juste en dessous du Ré.
Juste en dessous du Ré. Donc tu vois, ça tient dans un mouchoir de poche, et après on revient sur Ré, et on revient sur Fa, et on est reparti.
Ah, donc quand tu me disais tout à l'heure que ça tournait sur quatre accords, mais qu'en fait c'est toujours le même, c'est ça que tu voulais dire.
C'est ça.
Ré, Fa, Mi bémol, Ré, Fa.
C'est ça. Donc finalement, même si on regarde, si Ré, Fa, c'est notre première phrase, après on a encore la même phrase, donc si cette phrase on l'appelle A, ça va me faire A, A. Au milieu, on va avoir une séquence Mi bémol, Ré bémol qu'on peut appeler B. Et après, on revient sur Ré, Fa, donc on a eu...
A, A, B, A.
A, A, B, A, ce qui est vraiment la structure extrêmement classique que tu trouves dans toute la musique occidentale depuis le XVIIe siècle, que tu trouves dans le jazz, hein, à tel point que les thèmes de jazz, parfois on appelle même ça un 32 A, A, B, A. C'est-à-dire, tu as 8 mesures, 8 mesures, 8 mesures qui font A, A, B, A. Donc voilà. Le thème de Herbie Hancock, c'est vraiment que ce petit plan tonal avec ses... Et après, on revient. Ces quatre accords qui se succèdent en forme A-A-B-A. Alors, du coup, moi, j'ai vraiment très très envie d'utiliser quelque chose d'équivalent. Mais bah, comme tu commences à me connaître, je vais essayer de retourner ces intervalles, etc., etc. Par exemple, au lieu d'aller de Ré vers Fa, ce qui nous fait monter, hein, de Ré vers Fa, je vais descendre de Ré vers Si.
Le même intervalle, mais dans l'autre sens.
Exactement. Ré, Si. Après, du coup, au lieu d'aller sur Mi bémol, je vais essayer d'aller sur Do dièse. Donc là, c'est pareil, je reproduis les mêmes schémas d'intervalle. Voilà. Donc ça, c'est le genre de stratégie que j'ai utilisée pour l'harmonie, et puis pour la mélodie, je sais pas si t'as entendu, j'ai essayé de changer un tout petit peu. Alors, l'intervalle qui est vraiment très 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 utilisé dans Maiden Voyage, c'est la quarte.
Ah oui, la quatrième note, donc en partant Do, Ré, Mi, Fa, Do, Fa, c'est une quarte.
Voilà, Do, Fa, c'est une quarte. Alors en l'occurrence, le thème de Maiden Voyage, ça part dans La, et ça va vers le Ré, donc il y a cette quarte montante. Hein, ta, ta, ta. Alors, moi, tu sais, j'aime bien rajouter des méandres. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais partir du Ré, je descends vers le La, donc c'est la quarte, mais en descendant, je remonte vers le Ré, donc de nouveau une quarte, et je vais même aller encore une quarte plus haut, vers le Sol. Ta, 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 ta. Et du coup, ça me donne ce petit motif.
Donc tu vas mettre 5 notes là où il en mettait 3.
Exactement, comme je t'ai dit tout à l'heure, je cherche à rajouter des syllabes. Et ça tombe bien, puisque le sol, tu te souviens, dans mon accord, la Ré, la Do, Mi, Sol, il est juste là. Hein. Ta, 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 ta. Ça fait une note qui est déjà tout à fait disponible et je ne vais pas me priver de l'utiliser. Et même d'ailleurs, à la fin de chaque petite phrase, tu sais, je rajoute deux groupes de 3 syllabes. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Oui, alors qu'est-ce que tu vas en faire ?
Bah, dans le thème Maiden Voyage, le thème d'origine, tu sais, il finit par 5 notes seulement, qui font... C'est-à-dire 4 notes conjointes qui montent, et puis après, ils descendent une quarte. Bah, moi, je vais augmenter un petit peu ça. Je vais faire... Je vais faire 3 notes conjointes, mais après, je vais faire...
Ah, tu rajoutes une note de plus.
Et pas de n'importe quelle note. Je descends d'une carte, comme lui, et je descends d'une autre carte en plus. Donc tu vois, ce motif d'empiler des cartes, je l'avais fait en montant une première fois, et je vais le faire aussi en descendant pour finir ma phrase.
D'accord.
D'ailleurs, ces empilements de cartes, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, particulièrement quand il est plus ou moins question d'aller vers l'inconnu, l'exploration, etc. Parce que, bon, avec une quinte, t'as pas du tout le même effet qu'avec une carte.
Et pourtant, tu prends la Marseillaise, ça commence, tombe, c'est une quarte.
T'as pas tort, c'est vrai. Mais tu remarques que ré, sol, sol, la, la, ré, tu vas aller vers le ré aigu. Donc entre sol et ré, tu entends quand même la quinte vers le haut un peu plus loin. C'est pour ça que je te parle vraiment d'empilement de cartes. Hein. Si je faisais... Là, on a beaucoup moins envie de se mettre au garde à vous. Et la quinte, c'est vraiment héroïque, c'est glorieux. Il y a un compositeur qui l'a très très bien compris, c'est John Williams.
Hein. Ah, il a fait des musiques de films, non?
Et comment? John Williams, par exemple, vers le début de sa carrière, c'est la musique de Superman. Superman, c'est... Là, tu vois, on a vraiment cette quinte. Ou alors... Au début, dans un autre thème de la même musique, Superman, voilà, c'est la quinte héroïque. Star Wars commence pareil d'ailleurs. Donc, E.T. aussi. Etc. etc. Jurassic Park. Jurassic Park. Là, t'as même deux quintes.
Alors, toutes les musiques de films commencent par une quinte, en fait.
John Williams a fait sa carrière entière là-dessus, et puis voilà, c'est des musiques héroïques, glorieuses. Mais si tu penses à un autre thème, par exemple, si je te fais... Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est les notes qui introduisent Star Trek.
Ta-da-da. Alors là, on est plus héroïque, on est plus dans le mystère.
Et voilà, to boldly go where no man has gone before, pour aller glorieusement vers l'inconnu. Et tu te rends compte, là, on a deux cartes qui s'empilent. C'est ce que moi, j'utilise. Et après, on a encore deux autres cartes ici qui s'empilent. Voilà, donc là, on est complètement dans une ambiance différente. La carte, elle nous invite vers l'inconnu. Et donc, quand je fais... Ça convoque un tout petit peu... Tout cet héritage.
Bon, bah, écoute, c'est bien la science-fiction, mais moi, c'est l'héritage scientifique que je convoque, si tu veux.
Bon, alors bah, justement, après Voyageur 1, on va peut-être parler de Voyageur 2.
Alors, Voyageur 2, donc, comme je te le disais, lancé un mois avant, mais qui arrive après.
Ouais.
Et là, en arrivant près de Jupiter, bah, il savait beaucoup mieux à quoi s'attendre, évidemment, puisqu'il savait déjà ce que Voyageur 1 avait trouvé.
Ouais.
Par exemple, les anneaux, bon, bah, là, il savait à l'avance qu'il allait trouver, et donc il a pu les... cadré beaucoup mieux, et là on a eu vraiment des très belles photos des anneaux où il n'y avait aucun doute qu'il y avait bien plusieurs anneaux autour de Jupiter.
Okay.
Sur les satellites aussi, c'est pas mal parce que rien que le fait d'avoir deux sondes à 4 mois d'intervalle, ça permet aussi de savoir ce qui a changé entre les deux. Par exemple sur Io, où je t'ai dit qu'il y avait des volcans, et bien toute cette lave qui est envoyée dans le ciel et qui retombe, ça modifie le sol.
Ah, donc on peut voir ce qui a changé.
On peut voir ce qui a changé entre les photos de Voyageur 1 et Voyageur 2 au même endroit de Io, on voit des différences.
D'accord.
Ça, c'est quand même drôlement intéressant.
Et Europe, pareil?
Pareil, alors il savait déjà que le sol était craquelé, donc il a été voir d'un peu plus près pourquoi c'était.
Ouais.
Et il a compris que c'était un sol entièrement recouvert de glace, il y a une couche de glace absolument gigantesque,
ouais,
mais qui bouge, qui se fend, les morceaux se déplacent, ce qui veut dire qu'il y a très probablement de l'eau liquide en dessous.
Un océan?
C'est ce qu'on pense, oui, qu'il y a un océan d'eau liquide sous la surface d'Europe, et qui dit eau liquide dit, pour certains, pourquoi pas peut-être de la vie.
Tout de suite, oui, évidemment.
Bon, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est quand même grâce à Voyageur 2 qu'on s'est vraiment convaincu qu'il y avait de l'eau liquide sous la surface d'Europe, et ce qui a été confirmé après par les missions suivantes.
Et donc pour Saturne, c'est pareil, il a fait d'autres observations qu'on confirmait.
Pareil, alors pas de grandes découvertes nouvelles, mais des confirmations. Et puis là, il a refait le coup de l'occultation, tu sais. Voyageur 1 était passé derrière Titan,
ouais,
pour nous permettre d'analyser son atmosphère. Voyageur 2, il a fait pareil carrément avec la planète Saturne.
Ah, il a vu la lumière du soleil qui traversait, etc., etc.
C'est ça. Et nous, on a vu les ondes qui nous renvoyaient.
D'accord. Mais sauf que lui, il n'est pas parti dans le vide après Saturne.
Non. Alors là, on a calculé la trajectoire différemment. Et les autres planètes avaient bougé un peu pendant ces 4 mois, ce qui lui a permis de prendre une trajectoire qui allait vers Uranus.
Ah.
Alors là, Uranus, c'était vraiment l'inconnu.
Oui, tu me disais tout à l'heure, c'est 19 unités Terre-Soleil, c'est ça?
19 unités astronomiques. Bon, on voit avec le temps du voyage, d'ailleurs. Voyageur 2, donc parti en 77,
ouais,
arrivé près de Jupiter en 79,
mm-hmm,
Saturne 81.
Donc 2 ans, ok.
Et Uranus 86.
Ah, ouais.
Vraiment beaucoup plus loin, malgré l'accélération qu'elle avait eue entre-temps.
D'accord.
Et ensuite, elle arrivera à Neptune en 89.
Ok.
En gros, si tu veux, l'ordre de grandeur, la vitesse, c'est 3 unités par an.
Ouais.
Ça fait des chiffres plus faciles à comprendre que des millions de kilomètres,
c'est sûr.
De kilomètres par seconde.
C'est sûr.
Donc, arrivé près d'Uranus, alors là, c'est une grande première, et une grande dernière d'ailleurs, parce qu'aucune sonde n'est retournée depuis.
Hein. Ah, ouais.
Autant Jupiter, Saturne, maintenant, on les connaît beaucoup mieux, autant Uranus, c'était la dernière fois qu'on a pris des photos rapprochées.
D'accord.
Alors, il faut dire que bon, les techniques terrestres ont progressé depuis, notamment le télescope Hubble, qui est en orbite autour de la Terre, qui est très très puissant. Maintenant, il fait des photos qui sont pratiquement aussi bonnes que celles que Voyager 2 a fait en allant sur place.
D'accord, bah, finalement.
Mais quand même, pour l'époque, c'était de belles découvertes. Alors, par exemple, quelque chose qu'on ne peut pas voir depuis la Terre, c'est le champ magnétique.
Ah oui.
Là, il est arrivé sur place, il a pu mesurer le champ magnétique d'Uranus. On n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Ou quelque chose d'assez basique, c'est la période de rotation. Toutes les planètes tournent sur elles-mêmes.
Ouais.
Et souvent, au télescope, on essaie de voir des taches ou des montagnes ou des choses, des points de repère. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir au bout de combien de temps ils reviennent, à quelle vitesse la planète tourne.
Ouais.
Mais Uranus, on n'avait pas réussi à voir de repères comme ça. Et donc, c'est Voyager 2 qui a trouvé qu'elle tournait en 17 heures sur elle-même.
D'accord.
Et puis ici, il y avait quelque chose de très intéressant. Alors là, on avait découvert, après le lancement de Voyager 2, mais avant qu'il arrive à Uranus, on avait découvert les anneaux.
Ah ben oui, les anneaux de Uranus.
Les anneaux d'Uranus, dont on a parlé dans notre épisode sur les anneaux. Mm-hmm. Et ça, donc on avait détecté depuis la Terre qu'elle en avait, mais on ne voyait vraiment pas grand-chose.
Ouais.
Donc ça tombait drôlement bien qu'un voyageur soit déjà en route à ce moment-là.
Donc il a confirmé.
Il a confirmé, il a pris des photos, il a donné beaucoup plus de détails sur leur structure, etc. Et il en a même trouvé 2 de plus qu'on n'avait pas encore vus depuis la Terre.
Ah ben oui, les anneaux d'Uranus, c'est quand même quelque chose.
Et puis les satellites aussi, hein, comme les précédentes. Uranus a aussi des satellites. Alors, on savait depuis la Terre, on en avait vu 5 à cette époque-là.
Ouais.
Ils ont une particularité d'ailleurs par rapport à tous les autres astres du système solaire.
Oui.
C'est qu'ils n'ont pas des noms qui sont tirés de la mythologie grecque ou romaine comme les autres. Ils ont des noms qui sont tirés des pièces de Shakespeare.
Ah oui, mais c'est peut-être en hommage, comme Uranus a été découvert par un mec qui était quand même à moitié anglais.
Herschel, oui. Tu l'aimes bien, ton Herschel. Depuis qu'on a fait un épisode sur lui, tu le recases à chaque fois que tu peux.
C'est pas faux.
Mais en tout cas. Donc, en plus des 5 satellites qu'on connaissait à l'époque, Voyager 2, en arrivant sur place, on a vu 11 de plus.
Ah oui.
Et sur le plus gros, par exemple, Miranda, il a découvert des canyons, mais alors c'est pas de la rigolade, un canyon de 20 km de profondeur.
Ah ouais, faut pas tomber quoi.
Faut pas tomber. L'hypothèse, c'est que c'est pas quelque chose qui aurait été creusé, mais ce serait plutôt la planète qui aurait explosé en morceaux, peut-être après un choc avec un astéroïde ou quelque chose comme ça. Et ensuite, les morceaux se seraient réassemblés. Mais ce qu'on voit, c'est la couture, quoi, la jointure.
D'accord, ça ne joint pas bien. Ok, et donc après avoir vu tout ça, il est parti jusqu'à Neptune.
Voilà, en profitant une nouvelle fois de l'assistance gravitationnelle d'Uranus.
Ouais.
Là, de nouveau, grande première et grande dernière. Hein, on n'est pas retourné depuis.
Mm-hmm.
Alors, en fait, il était même prévu de passer très très près, à 1000 km au-dessus de la surface de Neptune.
Ah oui, pas grand-chose.
Hein, grand-chose. En se disant que, bon, on prenait peut-être un peu des risques qu'il se cogne quelque part, mais bon, c'était la dernière planète. autant jouer le tout pour le tout, même si on la perdait à ce moment-là.
Ouais.
Mais il y a quand même eu un coup de théâtre. Avant qu'il arrive là, c'est qu'on a découvert aussi des anneaux de Neptune.
Ah, ben oui.
Et les anneaux, c'est quand même des cailloux en orbite autour de la planète.
Ah, donc mieux pas passer trop près.
Mieux pas passer trop près. Donc là, on a pris un peu de précaution quand même si on était prêt à prendre des risques. Elle est passée à 5000 km.
Bon.
C'est quand même très très près.
Tout hein. À fait, ouais.
Et de ces 5000 km, Voyager 2 a observé, par exemple, la grande tache sombre.
Ah.
Tu sais, comme sur Jupiter, il y a une grande tache rouge, et bien sur Neptune, il a vu une tache qui faisait la taille de la Terre, hein, 13 000 km de diamètre, c'est quand même pas mal.
Mais alors c'est pareil, c'est des tempêtes
C'est pareil, c'est un anticyclone. Alors évidemment, comme on venait de le découvrir, on ne savait pas à ce moment-là si elle durerait aussi longtemps que celle de Jupiter, pendant des siècles, ou pas. Et puis ben après, Voyager 2 est reparti. Mais heureusement, quelques années plus tard, on a pu observer de nouveau Neptune avec le télescope Hubble. Et là, on a vu que cette tache-là avait disparu, mais il y en a d'autres qui étaient apparues à d'autres endroits.
Ah.
Et puis, finalement, une trentaine d'années après, il y en a une qui est réapparue au même endroit.
Ah bon ?
Donc voilà, ça va, ça vient. Bah, c'est comme la météo sur Terre, hein. Il y a des cyclones à différents endroits, ils ne restent pas pendant des siècles.
Ouais, enfin, la météo sur Neptune, ça a l'air d'être quelque chose quand même.
Ah ben, surtout que le vent là-bas, ça rigole pas. Hein. C'est les vents les plus rapides de tout le système solaire. Même sur Vénus, il n'y en a pas d'aussi rapide. Hein. C'est vraiment violent. Une autre observation très intéressante qui a été faite, qui est de nature un petit peu différente, c'est qu'en mesurant précisément la trajectoire deux Voyager 2 autour de Neptune, ça permet de déterminer très précisément la masse de la planète.
Oui.
D'accord ? Ça, c'est la gravitation, tout bêtement.
OK.
Et la masse, bon, on en avait déjà une idée, mais on s'est aperçu que notre idée était un petit peu fausse. En fait, on l'a révisée, la masse de Neptune est un petit peu plus faible que ce qu'on croyait.
D'accord.
De 0,5%, c'est pas grand-chose. Bon, normalement, ça n'aurait aucune importance, mais là, il se trouve que ça en a une, parce qu'on avait observé, depuis bien avant, des toutes petites anomalies dans la position, dans les orbites d'Uranus et de Neptune.
Ouais.
Et l'hypothèse qu'on avait faite, c'est qu'il y aurait peut-être une autre planète,
ah,
encore plus loin, qu'on ne connaissait pas, et ce serait elle qui perturberait ces planètes-là.
D'accord.
Je rappelle que c'est comme ça que Neptune avait été découvert, parce qu'on avait vu des anomalies dans la trajectoire d'Uranus, et on avait calculé qu'elles étaient dues à une autre planète, et c'est comme ça qu'on a découvert Neptune.
D'accord.
Donc là, il y avait l'espoir que peut-être on découvrirait par la même méthode une nouvelle planète.
Ouais.
Et en fait, quand Voyager 2 a corrigé la masse de Neptune, ben on s'est aperçu qu'en fait, c'est pour ça, ces anomalies, c'est parce qu'on faisait les calculs à partir d'une certaine masse supposée pour Neptune. Et quand on refait les calculs avec la vraie masse, ben ça marche parfaitement, il n'y a plus d'anomalies.
Ah, zut. Donc il n'y avait finalement plus aucune raison de penser qu'il y avait une planète après.
Voilà, c'était un peu décevant pour certains, mais finalement, c'est mieux aussi d'avoir des observations qui collent avec les calculs plutôt que d'avoir des anomalies.
D'accord.
Et alors donc, s'il n'y a plus de planète après Neptune, et ben c'est donc Voyager 2... Après son survol de Neptune, quand elle a continué,
ouais,
c'était l'objet le plus lointain qu'on connaissait à l'époque. On ne connaissait rien au-delà de Neptune.
Mais attends, il n'y a pas Pluton qui est plus loin que Neptune ?
Ah oui, c'est vrai. Pluton était connu, mais à l'époque, elle n'était pas plus loin que Neptune.
Ah bon ?
En fait, l'orbite de Pluton, elle coupe celle de Neptune. C'est-à-dire que Pluton met 240 ans à faire le tour du Soleil. Et pendant un tout petit bout, pendant une trentaine d'années, sur ces 240 ans, elle est à l'intérieur de l'orbite de Neptune.
Ah, d'accord.
Plus près de nous que Neptune. Et il se trouve que c'était le cas à ce moment-là.
D'accord.
Donc, en 1989, il y avait Pluton, ensuite Neptune un peu plus loin, et Voyager 2 encore plus loin.
Ok.
Maintenant, c'est plus vrai. Maintenant, Pluton est au-delà de Neptune.
Mais de toute façon, maintenant, Pluton, c'est même plus une planète, alors.
Non, c'est une planète naine, mais ce n'est pas la question. Là, je parle de tous les objets qu'on connaît, des objets les plus lointains connus.
Ouais.
Maintenant, on connaît d'autres planètes naines. On connaît beaucoup de choses au-delà de Neptune, hein, qu'on ne connaissait pas en 89.
Mmh.
Il y a toute la ceinture de Kuiper, qui est un ensemble de petits astres qui tournent autour du Soleil, qui sont trans-neptuniens, hein, au-delà de Neptune.
Ouais.
Mais ça, Voyager 2, maintenant, est plus loin que ça aussi.
Ah.
Donc il pourrait être de nouveau l'objet le plus lointain connu du système solaire. Alors, il y a d'autres objets dans le système solaire qu'on soupçonne, mais qu'on n'a pas observé. Ce qu'on appelle le nuage de Oort,
ouais.
O-O-R-T, c'est le nom d'un astronome. En fait, c'est quand on regarde les comètes qui nous viennent, donc elles viennent de très loin, et puis on les voit quand elles sont près du Soleil.
Oui.
Mais on peut faire le calcul de leur orbite en sens inverse, calculer d'où elles viennent, en reconstituant, et on s'aperçoit qu'il y en a un grand nombre qui viennent d'une zone qui serait très très loin du Soleil. Donc il y a très certainement un tas de petits objets glacés qui tournent à cette distance-là, et de temps en temps, il y en a un qui se détache, et qui tombe, et qui vient vers nous, et qui devient une comète.
Alors, mais c'est loin comment ?
Alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Je te parlais de Neptune à 30 unités. Voyager 1 et 2, maintenant, ils sont à 100 et quelques unités. Et le nuage de Oort, il serait à 60 000.
Ah oui, c'est pas le même ordre de grandeur, là.
Voilà. C'est pour ça qu'on ne les a pas observés. Hein. On peut pas voir à cette distance-là, mais on les déduit du calcul.
D'accord. Bon, du coup, je vais peut-être essayer de récapituler tout ça. Donc, en fait, Voyager 2 a suivi la même trajectoire que Voyager 1 au départ, mais après, ils se sont séparés. Il y en a un qui est parti hors de l'écliptique. Et Voyager 2, les deux planètes qu'il a été le seul à visiter, c'était Uranus et Neptune.
C'est bien ça, t'as tout compris. Ça te fait un couplet, ça, non ?
Ah bah, et comment ? Twin Sisters, split apart.
Les sœurs jumelles séparées.
With one swift diversion.
Par un détournement rapide.
Voyager, two alone.
Voyager 2, toute seule.
Follow through its mission.
Continue sa mission.
Meet Uranus and Earth.
À la rencontre d'Uranus et d'un...
Bunch of new moons and rings.
D'un tas de nouvelles lunes et d'anneaux.
On to Neptune's dark spot.
Il continue vers la tache sombre de Neptune.
And terribly strong winds.
Et les vents terriblement forts.
Voilà.
Bien.
Alors, il y a une petite nouveauté dans ce que j'ai mis là, c'est que, bon, clairement, le thème Maiden Voyage, dans toutes ses versions, ça a toujours été un thème complètement à quatre temps, hein, on l'a dit tout à l'heure. Alors que là, quand je fais ta-ta-ta-ta-ta-ta, en fait, je suis vraiment 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Je suis dans des mesures à trois temps, finalement.
Ah bon, tu peux passer de 4 temps à 3 temps comme ça?
Bah, je fais ce que je
Mais d'accord, mais ça se fait musicalement?
veux. C'est quelque chose de pas hyper courant, mais qui se pratique. Bah, tu te souviens, par exemple, quand on avait fait la chanson New Moon, il y avait une partie un peu différente au milieu, comme ça.
Ah oui, un refrain qui était un peu plus rapide, là, ça swingait.
C'est ça. Donc là, je vais pas passer en ternaire, je vais pas swinguer, mais je change un tout petit peu la métrique. Je trouve que c'est quelque chose qui convient pas mal. Alors, par ailleurs, il y a quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé parce qu'avec l'instrument que j'ai sous la main, on l'entend pas énormément, c'est la ligne de basse. Bon, là, on l'entend pas énormément.
La note la plus basse de chaque accord que tu joues.
Voilà, alors c'est pas seulement la note la plus basse. Dans une section de jazz, en général, tu as carrément un bassiste dont c'est le rôle à part entière, hein, sur lequel tout le reste repose, toute la construction harmonique repose. Alors, dans Maiden Voyage, on a vraiment ce tam, tam, et on a ce ta 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 ta. C'est ce tout petit décrochage. Alors, si je dis le nom des notes, hein, c'est un ré en bas, le la qui est la quinte, et on va chercher le ré aigu et on redescend la ré. Donc ré, la ré. Voilà, ce petit motif, c'est ce qu'on appelle un riff de basse, hein. C'est un motif qui tourne en boucle. Et puis après, ben, si on le fait partir de fa, de fa, c'est exactement les mêmes intervalles. Donc là, il est construit vraiment autour du ré, hein, le ré en bas, on passe par la quinte, hop, on va choper le ré en haut, et on redescend. Du coup, en fait, je me dis qu'il y a une occasion manquée, c'est que entre ré et la, j'ai dit qu'il y a une quinte. Mais après, pour aller jusqu'au ré en haut, c'est quoi comme intervalle ça?
Entre la et ré, ça fait une carte.
C'est ça, une carte en montant. Et moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien décortiquer les intervalles et puis faire des empilements avec les mêmes intervalles qui se reproduisent. Parce que là, il y a une quinte et une carte, c'est pas acceptable. Donc du coup, je vais pas aller chercher le ré, je vais aller chercher une quinte au-dessus du la. Le mi. Et du coup, ré, la, mi, la, ré. Tu vois, quelque chose comme ça. Je vais construire une ligne de basse uniquement avec des quintes qui se superposent, qui s'empilent. C'est un peu ce que j'ai fait dans la mélodie, mais en empilant des cartes au lieu d'empiler des quintes.
Donc tu empiles des quintes dans la ligne de basse et des cartes dans la mélodie. Ça gêne pas, ça va bien ensemble.
ça dépend, parce que de toute façon, tu sais, quand tu fais une quinte en montant, par exemple de ré vers la, si tu fais un ré et que tu vas chercher le la en bas, en descendant, ça s'appelle plus une quinte, ça s'appelle une carte. Donc c'est deux intervalles qui sont ce qu'on appelle complémentaires.
Oui, la somme des deux, ça fait une octave.
Exactement, hein? 7 plus 5 égale 12.
Ah, 7 demi-tons plus 5 demi-tons, ça fait 12 demi-tons, ça fait une octave.
Voilà, exactement. Ok. Bon, mais alors du coup, donc Voyageur 2, elle a dépassé Neptune. Elle a passé tous les objets transneptuniens, la ceinture de machin là,
De Kuiper.
voilà, que tu me disais. Donc maintenant, ça y est, elle est sortie du système solaire.
Tout dépend de ce que tu entends par sortir du système solaire. Même ça, c'est pas.
Il n'y a pas un panneau?
C'est jamais très simple en astrophysique, tu sais. La définition de base du système solaire, hein, ce qu'on apprend à l'école, c'est constitué du Soleil et de tout ce qui tourne autour. Les planètes, les astéroïdes, les comètes, tout ce que tu veux. Donc tout ça, c'est ce qui est soumis à l'influence gravitationnelle du Soleil.
D'accord.
Et la gravitation, en théorie, elle s'étend indéfiniment, hein, dans tout l'univers.
Ah, mais
Bon.
elle devient de plus en plus faible.
Elle devient de plus en plus faible. Donc si le Soleil était tout seul au milieu de l'univers, eh ben, son influence gravitationnelle, elle s'étendrait indéfiniment.
D'accord.
Mais ce n'est pas le cas, évidemment, il y a d'autres étoiles.
Oui.
Donc il y a un moment, quand on s'éloigne du Soleil, où finalement, on va être moins influencé par le Soleil et plus influencé par d'autres étoiles.
Ah, c'est comme, tu sais, quand il pleut? Si la pluie elle tombe je sais plus où en France, elle va aller couler 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 vers la Seine ou alors elle va aller couler couler vers la Loire ou
Ouais, c'est ça, c'est des fleuves qui ont leur bassin versant et il y a une ligne de crête qui les sépare.
voilà exactement.
Et ben oui, c'est tout à fait analogue. On peut dire qu'il y a une ligne de crête entre les différentes étoiles et suivant l'endroit où on est plus soumis à l'influence de l'une ou de l'autre.
Ah oui, en fait ça fait comme les cuvettes. Tu sais, tu disais que le soleil, c'est comme s'il faisait une cuvette sur une toile. Mais en fait, chaque étoile, elle a sa cuvette.
C'est tout à fait ça.
D'accord.
Alors, si on décidait de définir le système solaire comme ça, pour avoir une idée des distances, si tu veux, l'étoile la plus proche du soleil, elle est à peu près 260 000 unités, pour reprendre mes unités astronomiques,
hein, d'accord, du 260 000 fois la distance entre la Terre et le soleil.
Voilà.
Ok.
Donc, si je définis la limite du système solaire comme, en gros, à mi-chemin entre les deux, on serait dans les 100 000 unités astronomiques.
Ouais, ok.
C'est jusque-là que l'influence gravitationnelle du Soleil est dominante. D'ailleurs, le nuage de Oort dont je t'avais parlé tout à l'heure, là, les objets, les objets qu'on soupçonne qui tournent autour du Soleil, mais si on les a jamais vus, ils seraient à 60 000 unités.
D'accord.
Donc on n'est pas très loin de cette limite, si on veut.
Ok.
Bon. Donc ça, c'est effectivement une façon de définir sortir du système solaire. Et à ce moment-là, nos voyageurs, ils en sont très, 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 très loin. Ils sont qu'à une centaine d'unités astronomiques pour le moment.
Ah oui, ça fait 1000 fois moins.
Voilà.
Ok, il y a encore un petit moment, quoi.
Encore un moment. Mais en fait, les astronomes, le plus souvent, c'est pas comme ça qu'ils définissent ce que c'est que d'être dans le système solaire ou d'en sortir. C'est pas tellement à partir de la gravitation, c'est plus à partir de la matière, carrément.
De la matière? Mais attends, il n'y a pas de matière dans l'espace, c'est vide.
Ah, c'est presque vide, mais pas tout à fait.
Il y a des petits atomes qui se baladent.
Oui, il y a des particules, pas forcément des atomes, mais beaucoup de particules qui se baladent dans tous les sens. Notamment le Soleil, il crache de la matière, des protons, des électrons, d'autres ions aussi. Bon, pas beaucoup, hein, disons 1 million de tonnes par seconde à peu près.
Ah oui, quand même, ça en fait des camions-citernes, ça.
Si tu veux. Alors évidemment, à l'échelle du Soleil, à l'échelle du système solaire, ça ne fait pas tant que ça, mais partout où on est, où on se balade dans le système solaire, on a ces flux de particules qui arrivent du Soleil et qui baignent tout.
Ah oui, d'ailleurs, c'est ça ce qui fait les aurores boréales.
Oui, c'est ça, quand elles arrivent dans l'atmosphère terrestre, elles interagissent avec les molécules d'air et tout ça. Oui, oui. Et c'est un problème même pour les astronautes, hein, quand ils restent longtemps dans l'espace, ils sont percutés par toutes ces particules, ça pourrait finir, s'ils restent longtemps, par les rendre malades. Donc,
ah oui, ça peut leur donner des cancers ou des trucs comme ça, c'est ça?
Oui, ça pourrait. Donc ces particules, bah, d'ailleurs ça fait partie de ce que les appareils de Voyager mesurent, c'est une information importante sur là où on est dans l'espace.
Mais alors du coup, quand tu es dans l'espace, tu baignes dans ce truc, tu n'es pas du tout dans le vide, c'est comme si tu étais dans un gaz, quoi.
Oui, en quelque sorte, mais un gaz très, 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 très dilué. Hein. Là, on parle de quelques particules par centimètre cube, alors que l'air qui nous entoure dans la pièce, c'est des milliards de molécules par centimètre cube.
Ah oui, vu comme ça, d'accord.
En fait, si on avait cette densité-là dans un récipient sur Terre, on dirait qu'il y a le vide dedans. C'est même plus vide que les meilleurs vides qu'on arrive à faire dans les instruments où on essaie de faire le vide.
Okay.
Mais si tu te places à l'échelle de l'espace, ces densités de particules sur des millions de kilomètres, à grande échelle, on peut arriver à définir des grandeurs comme on définit dans un gaz, la température, la pression, etc. Enfin, toute la physique des gaz qu'on fait sur Terre, on peut l'appliquer à cette espèce de gaz extrêmement dilué. Alors c'est même un petit peu plus compliqué que ça, parce que c'est des particules qui sont chargées électriquement. Sur Terre, un gaz dont les éléments sont chargés, on appelle ça un plasma. Et ça a un comportement un peu particulier, ça se comporte à la fois comme un gaz et pas tout à fait. Donc là, dans l'espace, on a un plasma qui remplit tout l'espace. Et on peut définir toutes les grandeurs, même la vitesse du son, si on veut.
Alors, donc dans l'espace, personne ne m'entendra pas crier, finalement.
Alors, c'est pas vraiment du son, mais le son, c'est quoi? C'est une onde de pression. Hein, y a la pression qui augmente un petit peu à un endroit, qui diminue à côté, et puis ça se transmet. Bah, tu peux avoir la même chose. Alors, la pression, tout en restant très proche de zéro, elle peut augmenter à certains endroits dans l'espace, il va y avoir un tout petit peu plus de particules, et puis un petit peu moins à côté, ça va se déplacer. Et donc, on a des ondes de pression comme ça qui se déplacent dans l'espace et qu'on peut mesurer, on peut leur donner une vitesse.
Ah ouais, ça c'est balèze. Et alors, c'est la même chose, on dit que l'espace est très 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 froid, mais finalement, il y a quand même une température.
Oui, mais il faut distinguer précisément de quoi on parle. La température d'un gaz, c'est lié à la vitesse de déplacement de ses molécules.
Ouais.
Donc là, dans notre gaz, notre plasma interplanétaire, on connaît la vitesse des particules, et effectivement, on peut dire qu'il y a l'équivalent d'une température, et là, ce serait une température super élevée, ce serait à peu près 100 000 degrés.
Ah bon, tu peux faire brûler un steak en le mettant dans l'espace?
Non. Si tu mets un objet comme ça dans l'espace, lui, il va prendre la température ambiante, disons, qui est très très froide, elle. C'est de l'ordre de moins 270 degrés.
Ah oui, ok.
Mais tu as ce gaz dilué qui se balade là-dedans et qui, lui, n'est pas en équilibre, il n'est pas à température ambiante. Si tu plonges ta main dans de l'eau à 100 degrés,
Oui, d'accord.
Tu brûlé tout de suite.
Encore des expériences de Nicolas.
Bon, tu l'enlèves tout de suite,
Ok.
sinon tu vas être brûlé. Si tu mets ta main dans de l'air à 100 degrés,
Je vais avoir chaud quand même.
tu vas avoir chaud, mais tu vas pas être brûlé tout de suite. Ça se fait dans un sauna, c'est ce qu'on fait et on y reste quand même assez longtemps.
Ah, parce que la densité n'est pas la même, c'est ça?
C'est ça, la quantité de chaleur qui est stockée par l'air, elle est beaucoup plus faible que celle qui est stockée par l'eau et qui transmet. Et si maintenant, dans ton sauna, tu fais le vide, tu enlèves pratiquement tout l'air, tu laisses plus que quelques particules,
Ouais.
ben ces particules, elles vont avoir aucun effet pour te chauffer, même si elles, elles sont très chaudes.
D'accord.
C'est ce qui permet de dire que l'espace est à moins 270 degrés, mais le plasma qui remplit cet espace, lui, il est à 100 000 degrés.
Mais alors donc, c'est quoi le rapport entre ce gaz à ce plasma, comme tu dis, et les limites du système solaire?
Et bien ce plasma, il peut avoir différentes origines. Le Soleil, je t'ai dit qu'il crache des millions de tonnes de particules, mais les autres étoiles et le reste de la galaxie, ils en font autant. Donc, si je suis proche du Soleil, je vais recevoir surtout les particules qui viennent du Soleil. Par contre, si je suis très 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 loin au milieu de la galaxie, je vais recevoir des particules qui viennent d'ailleurs, qui viennent de toutes les directions.
Ah ouais, c'est des particules aliens.
Voilà, extrasolaire.
OK.
Et alors, par convention, on considère souvent que d'être dans le système solaire, c'est d'être dans la zone où on reçoit plus les particules du Soleil que celles qui viennent d'ailleurs. Et après, quand on en sort, et ben on est dans le milieu interstellaire où finalement toutes les étoiles jouent un rôle équivalent, y compris le
D'accord.
Soleil. Donc cette zone, en fait, plutôt que le système solaire, on appelle ça l'héliosphère.
Ouais.
Hélios, hein, c'est le Soleil. Donc une sphère, enfin, on va dire une espèce de bulle autour du Soleil qui définit la zone d'influence du Soleil du point de vue de la matière et plus du point de vue de la gravitation.
Mais quand tu parles d'une bulle, c'est une bulle comme une bulle de savon qui se balade dans l'air ou une bulle dans l'eau?
Ouais, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une zone de l'espace. Écoute, pour mieux comprendre, je vais te faire faire une petite expérience.
Chouette.
Souffle devant toi avec ta bouche. Maintenant, si tout en soufflant de façon continue, tu mets ta main juste devant ta bouche. Là, tu sens un courant d'air, l'air il est plus froid que l'air ambiant, il s'éloigne de ta bouche à une certaine vitesse, tu identifies bien que c'est l'air qui sort de ta bouche.
OK.
Bon, maintenant mets ta main à 50 cm devant ta bouche, ou même le plus loin que tu peux.
Oui, non, là, je sens plus rien là.
Là, donc ta main, elle sent l'air de la pièce, qui est une certaine température, qui ne bouge pas vraiment. Bon. Donc il y a une zone devant ta bouche où l'air est majoritairement celui qui vient de ta bouche. Une zone plus loin où c'est vraiment l'air de la pièce, et il y a forcément une limite quelque part entre les deux. Alors en éloignant doucement ta main, tu peux arriver à la sentir, la limite, elle est assez précise en fait.
Bah oui, c'est à peu près là, là.
Voilà, donc, tu peux pas la définir au millimètre près, mais on sent bien quand même que la zone d'influence de ta bouche dans la pièce, elle est clairement limitée.
Heureusement.
Heureusement, sinon je m'en prendrais plein la figure. Eh bien voilà, donc on est exactement dans la même situation avec les particules qui viennent du Soleil. Autour du Soleil, donc notamment dans la zone où il y a les planètes, on est clairement dans la zone d'influence du Soleil. Si on mesure les particules qui sont là, elles viennent majoritairement de la direction du Soleil et avec certaines vitesses bien caractéristiques. Si on est très 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 loin, près des autres étoiles, on a un bain de particules qui viennent de toutes les directions et avec des énergies qui ne sont pas du tout dans les mêmes. Et puis, ben, il y a une limite approximative entre les deux où ça se dilue. On peut dire l'héliosphère, donc la zone d'influence du Soleil, se dilue dans le milieu interstellaire, le milieu qui baigne les étoiles. Et cette limite, on l'appelle l'héliopause,
D'accord.
la pause de l'héliosphère.
C'est la limite entre quand je suis dedans et quand je suis dehors.
Et cette limite-là, elle se situe beaucoup, beaucoup moins loin que la limite de l'influence gravitationnelle dont je te parlais. La limite gravitationnelle, je t'avais dit, c'est de l'ordre de 100 000 unités astronomiques ou un peu plus. Là, on est plutôt entre 100 et 150 unités.
Ah oui, d'accord.
1 000 fois moins. Donc, ça veut dire que les particules se diluent dans le milieu interstellaire bien avant qu'on quitte la zone d'influence gravitationnelle du Soleil.
Ouais, enfin, quand même, si Neptune est à 30, ça veut dire que c'est quand même 3, 4 ou 5 fois plus loin.
Oui, tout à fait ça. Et d'ailleurs, si tu penses que Voyageur 2 a mis à peu près 12 ans pour arriver aux alentours de Neptune, bah 3-4 fois plus, bah ça fait maintenant.
Ah!
Donc c'est peut-être pas un hasard si on a eu des articles récemment qui annonçaient que Voyageur 2 était sorti du système solaire.
D'accord. Ah oui, donc c'est quand même un événement là.
Enfin un événement, on peut dire une série d'événements, parce que la limite entre la zone du Soleil et la zone interstellaire, elle n'est pas définie très précisément. On peut détailler un peu plus d'ailleurs, ça se fait en plusieurs fois. La première étape qu'on va franchir hein, en s'éloignant du soleil, ça s'appelle le choc terminal.
Ah, le choc!
Oui, c'est du jazz modal, ça?
Mais attends, quand je souffle avec ma bouche, je ressens pas un choc, il n'y a pas un choc de l'air qui sort de ma bouche?
Non, mais c'est parce que l'air il va pas très vite. Là, les particules qui partent du soleil, elles vont très très vite. En fait, elles vont plus vite que les ondes de pression qui se déplacent dans cette espèce de gaz interplanétaire.
Elles vont plus vite que la vitesse du son, elles sont supersoniques, tu veux dire?
On peut dire comme ça, oui. Les ondes de pression dans ce milieu, elles se déplacent à peu près à 100 km par seconde. Alors que les particules du Soleil, c'est entre 300 et 800 pour les plus rapides.
Ah,
Elles sont
d'accord.
carrément supersoniques. Et en s'éloignant du Soleil, elles vont ralentir. Et il y a un moment où elles vont se retrouver à cette vitesse, à la vitesse du son, entre guillemets, dans leur milieu.
Ouais.
Et bah, c'est un peu comme passer le mur du son à l'envers.
Ah oui, d'accord, ça freine.
Ça freine très brutalement. C'est un phénomène qu'on peut voir d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours. Tu fais couler de l'eau dans ton évier.
OK.
T'as sûrement déjà observé sur le fond de l'évier, s'il est bien plat, il y a un rond qui se forme à l'endroit où le jet arrive.
Oui, tout à fait, oui.
Alors qu'est-ce que c'est ce rond? En fait, c'est une zone juste autour du jet où l'eau va très vite, et elle se déplace plus vite, alors pas plus vite que le son, mais plus vite que les vagues dans l'eau.
Ah.
Elles vont pas très vite, les vagues dans l'eau, c'est quelques centimètres par seconde.
Oui, ça fait une zone un peu lisse comme ça au centre.
Oui, et là, c'est l'eau qui fuit très rapidement vers l'extérieur, et puis elle ralentit, et il y a un endroit où elle va arriver à la vitesse des vagues. Et là, il se forme comme un petit mur, un petit renflement qui est la limite de ce rond.
D'accord.
Et au-delà, l'eau va beaucoup plus lentement et on arrive dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire dans le reste de l'évier.
OK.
Donc le choc terminal, c'est le petit mur qui se forme autour de ce rond au bas du robinet. Beaucoup plus de particules qui s'accumulent. Et puis au-delà, on va être dans une zone où elles sont à une vitesse plus modérée. Alors, on n'est pas encore tout de suite dans le milieu interstellaire. Il y a d'abord une zone de transition qui est l'héliogène.
Ah, la gaine qui entoure le choc terminal.
Voilà. Et là, c'est assez compliqué, c'est très turbulent parce qu'il y a un mélange qui se fait entre les particules venant du Soleil et celles venant de l'extérieur. Et ça donne des phénomènes qui sont vraiment difficiles à bien modéliser. Et puis, cet héliogène donc, se dilue dans le milieu interstellaire et on a atteint vraiment ce qu'on appelle l'héliopause, où on ne peut plus faire la différence entre ce qui vient du Soleil et ce qui vient de l'extérieur. Et là, on est vraiment sorti du système solaire, si c'est la définition qu'on a choisie pour le système solaire.
Donc il n'y a plus de particules qui viennent du soleil là.
Elles sont toujours là, mais elles sont diluées au milieu des autres. Il y a des particules qui vont dans tous les sens, et il n'y en a pas plus qui viennent du Soleil que d'autres directions. De même que l'air que tu as soufflé tout à l'heure, il n'a pas disparu. Quand tu le sens plus sur ta main, ça veut dire qu'il s'est mélangé avec l'air de la pièce, et on n'est plus capable de dire. Cette molécule d'air-là, elle vient de ta bouche, et celle-là, elle vient d'ailleurs.
Et donc finalement, pour savoir si tu es encore dans l'héliosphère ou plus dans l'héliosphère, il suffit de détecter les particules et de voir si c'est du soleil qui vient ou pas.
Oui, c'est pour ça que les sondes Voyager, elles emportent des détecteurs de particules. Mais il y a un autre moyen aussi, on peut s'en rendre compte avec le champ magnétique. Le Soleil, il a un champ magnétique qui influence tout ce qui se passe autour de lui. En particulier, les particules qu'il émet, elles sont déviées par ce champ magnétique. Et puis en retour, comme c'est des particules chargées qui se déplacent, elles créent un champ magnétique elles-mêmes aussi. Donc tout ça est bien emmêlé. Mais en tout cas, selon l'intensité, la direction du champ magnétique, on peut savoir si on est plus sous l'influence du Soleil ou si on est parti dans le milieu interstellaire, où là, le champ magnétique va avoir des caractéristiques différentes. Qui seront aussi modifiés par les particules qui viennent de là-bas. Et dans l'héliogène, le champ magnétique, il part un peu dans tous les sens. Il y a des bulles magnétiques où l'orientation change. Voilà. Donc, à partir des magnétomètres de Voyager 1 et 2, on arrive aussi à savoir à quel moment ils ont franchi le choc terminal, l'héliogène ou l'héliopause.
Mais donc, quand tu parlais de bulle, l'héliosphère, c'est ça, c'est une bulle autour du Soleil, c'est une sphère, quoi, un rond.
Oui, c'est une sorte de bulle, effectivement, mais en fait, malgré son nom, elle n'est pas vraiment sphérique.
Ah.
Elle est déformée, suivant la direction parce que le Soleil lui-même, il se déplace.
Ah oui, parce que tout ça bouge, la galaxie, elle tourne sur elle-même.
Oui, alors là, ça entraîne toutes les étoiles, le gaz, tout ensemble. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment du mouvement propre du Soleil par rapport aux autres étoiles, par rapport au milieu interstellaire qui l'entoure.
Ah, ça bouge.
Il se déplace, toutes les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres. Et il entraîne avec lui tout ce qui tourne autour de lui, hein, les planètes, les comètes et compagnie. Le plasma qu'il émet, bah, se déplace en même temps que lui. Et du coup, cette bulle, elle se retrouve un peu étirée, dans le sens opposé au déplacement, il laisse une traînée, si tu veux.
Ah, ça fait une forme de goutte d'eau, quoi.
Oui, tout à fait. Une goutte d'eau qui tombe sur une vitre, à cause du frottement, elle laisse un peu d'eau derrière elle, qui va la rejoindre plus tard. Et là, on peut dire qu'il y a une partie du plasma qui suit avec un peu de retard.
D'accord.
Et ça veut dire que si tu veux sortir du système solaire, hein, comme nos fameuses sondes, bah, faut faire attention à la direction dans laquelle tu pars.
Ah, si tu pars du mauvais côté, c'est beaucoup plus loin.
C'est ce qui est arrivé à Pioneer 10, d'ailleurs. Après avoir survolé Saturne, il a été dévié, il est parti dans la direction de la queue de l'héliosphère, en quelque sorte. Et donc, alors que ses copines sont sorties au bout d'un peu plus de 100 unités astronomiques, lui, il faudra qu'il en parcourt des milliers avant d'arriver à sortir.
Ah ouais, carrément. C'est une longue queue, alors, en fait.
Oui, la forme de l'héliosphère, c'est vraiment pas du tout une sphère. Et en plus, elle est compliquée encore par les histoires de champs magnétiques, parce que le champ magnétique, ça fait tourner les particules, donc elles décrivent des spirales.
Wow.
Donc l'héliosphère s'enroule sur elle-même dans certaines directions. Enfin, ça fait des images très très jolies.
D'accord, ok. Donc, mais Voyager 1 et 2, ils étaient du bon côté? Ils sont sortis?
Oui, elles ne sont pas parties du côté le plus mauvais, mais comme elles sont dans des directions différentes, elles sont sorties à des moments différents quand même.
Ouais.
Alors si on suit Voyager 1, elle, en 2004...
Oui.
A clairement franchi le choc terminal.
Ah.
Là, il n'y a pas d'ambiguïté. On a vu des changements importants dans les densités de particules et tout ça, qui correspondaient vraiment à ce qu'on attendait au moment du choc terminal.
D'accord. Bon, bah ça y est. Compte est réglé.
Mais attention, franchir le choc terminal, ça ne veut pas forcément dire sortir du système solaire. Elle s'est retrouvée dans l'héliogène. Et puis, quelques années plus tard, elle a de nouveau franchi le choc terminal.
Quoi? Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait demi-tour? Il y a le GPS qui a déconné?
Non, elle risque pas de faire demi-tour. Mais en fait, la position du choc terminal, à la distance par rapport au Soleil, elle fluctue sans arrêt.
Ah bon?
Parce qu'elle dépend de la puissance avec laquelle le Soleil éjecte ses particules. Si tu penses au rond dans l'évier,
ouais.
Si je fais varier le débit du robinet, quand il est plus fort, le rond va être plus grand, quand il est moins fort, il va être moins grand.
Ah, et les particules émises par le Soleil, c'est pas toujours un flux constant.
C'est ça, l'activité du Soleil, elle varie, il y a des cycles, il y a des éruptions, et donc la position du choc terminal, elle varie sans arrêt. Et donc là, ben, il y a dû y avoir un moment où le choc terminal a rattrapé, dépassé Voyager 1, et quelques années plus tard, Voyager 1 l'a franchi de nouveau.
D'accord. Il pouvait faire de nouveau les articles.
Donc de nouveau, Voyager 1 sorti du système solaire. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'elle était dans l'héliogène. Donc là, elle a fait des mesures avec des champs magnétiques tordus dans tous les sens, etc. Et puis, en 2012, il y a eu de nouveau des variations importantes dans les caractéristiques des particules et des champs magnétiques qu'elle mesurait. Et donc là, on pense vraiment qu'elle a franchi l'héliopause.
Ah.
Et ça a été confirmé en 2013. Il y a eu vraiment des articles sérieux de la NASA disant, en analysant rétrospectivement nos données, ce qui a été mesuré avant 2012, en 2012 et depuis, on voit bien qu'il y a vraiment une transition. Et donc, nous annonçons officiellement que Voyager 1 est sorti du système solaire, au sens de sorti de l'héliosphère.
D'accord. Ok, et Voyager 2, elle a fait la même chose avec un peu de décalage, c'est ça?
Alors d'une part, elle avait du retard, je te rappelle, dans la mission, mais dès le début, elle est passée après Voyager 1, et puis elle est partie dans une direction un petit peu moins favorable. Donc même chose, elle a franchi le choc terminal en 2007, continué dans l'héliogène, et puis dernier épisode, franchissement de l'héliopause en 2018,
ouais.
Qui a été vraiment confirmé, pareil, hein, on le confirme qu'après coup, quand on peut réanalyser toutes les mesures. Et donc, fin 2019, des articles annonçant très officiellement que Voyager 2 est sorti de l'héliosphère.
Ah ouais.
Et donc, tu vois, c'est pour ça qu'on a eu toute une série d'articles, en fait, entre 2004 et 2019. À chaque fois, grand communiqué de presse, un objet fait par l'homme est sorti du système solaire. Comme si à chaque fois, c'était la première.
Mais ouais. Bon.
Il ne s'agit pas seulement de dire, ça y est, on a franchi l'héliopause. Hein. Évidemment, à chaque fois, on fait des mesures et on apprend des choses sur la composition du plasma interstellaire dans différentes directions.
Et puis maintenant, on peut avoir une estimation claire de la limite, la distance, on sait réellement où elle se trouve, quoi.
En tout cas, on a deux points.
Ouais, vu comme ça.
si c'était une sphère parfaite, bah, il suffirait d'avoir un seul point. Hein. Dès qu'une sonde est sortie, on connaît la distance et on a la forme complète. Avec une forme plus compliquée, plus on a de points, plus on en sait, mais... Pour tracer la courbe qui définit l'héliopause, on ne se contente pas des mesures qu'on a. On a des modèles théoriques, on peut faire des calculs, et les mesures permettent, comme on dit, de contraindre les modèles. Si on a plusieurs modèles en compétition, on peut dire, non, celui-là, il est faux, puisqu'il ne correspond pas à la mesure qui a été faite par Voyager 1, mais on peut dire, celui-là, il reste compatible avec les mesures qu'on a faites. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est juste. Voilà, donc, ces deux points, ce n'est pas du tout négligeable. Même si à eux seuls, ils ne définissent pas toutes les lieux-poses, ils permettent aux théoriciens de savoir exactement ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire.
D'accord. Mais alors, puisqu'elles sont sorties, elles vont quand même pouvoir continuer à nous envoyer des mesures?
Ah, ce n'est pas le fait d'être sorti du système solaire qui empêche de communiquer. Par contre, c'est vrai qu'elles travaillent de moins en moins. Ce qui limite, c'est plutôt la puissance électrique.
Ah.
Tu te rappelles les RTG?
Ah oui, le générateur thermotruc, machin.
Thermoélectrique à radioisotope, oui.
Voilà, c'est ça.
Bon, sa puissance, quoi qu'on fasse, elle diminue petit à petit au cours du temps, puisque c'est lié à la radioactivité.
Ah oui.
Donc si on veut prolonger la mission le plus possible, eh ben, il faut faire des économies d'énergie.
Du genre t'éteins la lumière en sortant, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est pas la lumière qu'on éteint, c'est les instruments de mesure. Déjà, on a éteint les appareils photo et les instruments qui servaient à observer les planètes. Ça fait longtemps, puisque depuis que la partie planétaire de la mission est terminée, on n'en a plus besoin. Là, on n'est plus que dans une mission interstellaire, en fait, hein, on n'est plus du tout dans une mission planétaire.
Ouais.
Mais malgré ça, par exemple, Voyager 1 a été obligé d'arrêter ses instruments de mesure des particules. Il n'y
Ah.
a plus que le magnétomètre qui fonctionne. Et Voyager 2, par contre, a encore 5 instruments fonctionnels, donc elle envoie pas mal d'informations. Et puis, bien sûr, il faut pouvoir continuer à alimenter l'antenne. Ça, c'est crucial si on veut pouvoir continuer à communiquer.
Ah, mais ça va pas durer indéfiniment, ça.
Ça ne va pas durer indéfiniment. Déjà, il y a le problème que la puissance qu'on reçoit de ces antennes, bah, plus la sonde s'éloigne, moins on en reçoit. Et si en plus la puissance électrique baisse, on va être encore embêté. Alors déjà, on a fait quelque chose sur Terre pour compenser ça depuis bien longtemps. On a agrandi les antennes. Je t'avais parlé du Deep Space Network, le réseau de grandes antennes de plusieurs dizaines de mètres
Ah oui.
qui sont sur Terre pour communiquer avec ces sondes. Alors, on est un peu embêté pour communiquer avec Voyager 2, parce que vu la direction qu'elle a prise, il n'y a plus qu'une seule antenne sur Terre qui arrive à pointer vers elle.
Ah ouais.
Celle qui est en Australie.
D'accord.
Au départ, quand elle visitait les planètes, on avait des antennes dans différents pays, ce qui fait qu'il y en avait toujours une qui était dans la bonne direction, quelle que soit l'heure. Maintenant, il n'y a plus que quand l'Australie est dans une certaine position qu'on peut communiquer.
OK.
Bon, ça, c'est pas très grave, puisque maintenant, on n'a pas besoin de communiquer tous les jours, hein. Il ne se passe pas des choses nouvelles.
Ouais.
Donc, cette antenne, déjà, elle a été agrandie pour, ben, avec une plus grande surface, on capte plus, tout
Ouais.
simplement. Ça lui permet à la fois de recevoir un signal plus faible et puis d'envoyer un signal plus fort, parce qu'en réception, c'est pareil. Voyager, si elle a moins d'énergie, elle peut moins amplifier les signaux qu'elle reçoit.
D'accord.
Donc, tout ça va dans le même sens. Et en plus, là, en 2020, on a décidé d'arrêter cette antenne pendant quelques mois, tant pis, de renoncer aux mesures pendant quelques temps pour l'améliorer, la renforcer et pouvoir continuer à communiquer.
D'accord.
Malgré tout ça, bien sûr, ça ne va pas continuer indéfiniment, il va falloir continuer à arrêter les instruments un par un. Et on estime qu'en 2025, vraisemblablement, Voyager 2 ne pourra plus effectuer de mesures, mais on pourra toujours communiquer.
Ah.
Et ce n'est pas totalement inintéressant parce que rien qu'en échangeant des signaux radio comme ça, même s'il n'y a pas de données scientifiques dedans, ça permet de connaître la position et surtout la vitesse de la sonde très très précisément.
D'accord, donc ça fournit quand même une information.
Une information sur le champ de gravitation de là où elle est, puisqu'elle va dévier, accélérer, ralentir selon. Donc, je ne sais pas s'il y a des planètes qu'on ne connaît pas ou d'autres anomalies de la gravitation, on pourra quand même le savoir.
D'accord.
Donc on a encore des données scientifiques. Et puis, bah, ce qui va finir quand même par couper le contact, c'est pas seulement la baisse d'électricité, c'est l'épuisement de l'hydrazine.
Ah ben oui, l'hydrazine, hein, pour tout ça.
Nos petits impulseurs à hydrazine là, qui font sans arrêt des corrections d'attitude pour que l'antenne pointe toujours vers nous, c'est vraiment tout le temps, quoi. Une douzaine de fois par jour, il faut allumer un moteur d'un côté, de l'autre. Donc, même si ça consomme très peu, bah, l'hydrazine va finir par s'épuiser.
Ouais.
Et à ce moment-là, l'antenne sera tournée n'importe comment, on ne pourra plus du tout communiquer.
D'accord.
D'ailleurs, c'est déjà ce qui s'est passé avec Pioneer 10 et 11. Hein. Ils continuent leur voyage, mais on ne communique plus avec eux depuis bien longtemps, là, depuis 2003.
D'accord. Et mais alors qu'est-ce qu'elles vont devenir ensuite?
Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Eh ben, des objets inertes se baladant dans les espaces infinis interstellaires.
Ouais. Mais au bout d'un moment, elles vont arriver quelque part, enfin, je sais pas.
Alors, on peut faire des estimations. Il faudra à peu près 25 000 ans pour qu'elles arrivent à la distance d'une fameux nuage de Oort, s'il existe.
Ouais.
C'est-à-dire, à ce moment-là, on pourra de nouveau dire que ce sont les objets les plus lointains qu'on connaît dans le système solaire.
Hein. Ah, les journalistes, on pourra sortir des...
voilà. Alors là, ce ne sera pas vraiment la sortie du système solaire, mais ce sera les objets les plus lointains. Comme quand Voyageur 2 a dépassé Neptune, et puis qu'après, on a trouvé d'autres objets plus loin.
Ouais.
Bon, ça, c'est une quête sans fin. Peut-être qu'au-delà du nuage de Oort, il y a encore d'autres choses qu'on ne soupçonne pas encore.
Ouais.
Et puis, alors, Voyageur 1, par exemple, dans à peu près 40 000 ans, il passera, alors on dit près d'une étoile, en fait, disons qu'il sera plus près d'une autre étoile que du Soleil. Donc là, il sera enfin sorti de cette fameuse...
cuvette,
c'est ça, voilà, il aura franchi la ligne de crête entre le Soleil et une autre étoile. Et donc là, dans 40 000 ans, tu verras des gros titres dans les journaux. Le premier objet humain à être enfin sorti du système solaire, parce qu'on aura une autre définition du système solaire. Bon. Et Voyageur 2, c'est pareil, il part dans une autre direction, mais c'est à peu près, par hasard, à peu près au même moment... qui sera plus près d'une autre étoile que du Soleil.
D'accord.
Et alors, si on veut aller encore plus loin, franchement, on n'en sait rien. On peut toujours calculer la trajectoire, hein, bien sûr. On peut dire, en fonction des étoiles qu'on connaît, elle sera déviée de telle façon, dans telle direction, etc. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, les planètes, les exoplanètes hein, qu'il y a autour des étoiles, bah, on en connaît quelques-unes maintenant, mais on en connaît peu. Donc, est-ce que Voyageur 1 ou 2 va entrer en collision avec une exoplanète qu'on ne connaît pas? On ne peut pas le savoir. Ou être dévié par des étoiles naines qu'on peut pas voir, mais qui ont une influence gravitationnelle. Enfin bon, on peut toujours faire des calculs, mais finalement, après, ça devient un peu du billard cosmique. Hein, ça. Ouais. Les sondes se baladent d'étoile en étoile, et vraiment, on peut dire qu'elles sont livrées au hasard.
Bah, tu sais, cette façon de finir sans vraiment finir, ça me fait penser à la façon dont se termine Maiden Voyage. C'est à cette époque-là, la grande mode, c'était le fade-out, tu sais.
Ah oui, en musique, on appelle ça un décrescendo, non ?
Oui, et même un décrescendo al niente, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien, plus rien, plus rien. Et pour cause, puisque cet enchaînement d'accords, puis après lui, c'est un enchaînement d'accords qui, comme je disais tout à l'heure, c'est en apesanteur. Ça
ne s'arrête jamais, c'est ça ?
Ça peut continuer comme ça à l'infini. Donc finalement, ça m'évoque un petit peu... la trajectoire des voyageurs.
Ah bah tu pourras mettre ça dans ta chanson.
Bah je vais finir comme ça justement. Through the heliopause.
À travers l'héliopause.
Each in its direction.
Chacune dans sa direction.
The twin voyager.
Les voyageurs jumelles.
Still sending information.
Envoie toujours des informations.
Gently shutting down.
En éteignant délicatement
some of their instruments,
certains de leurs instruments,
reduced to silence,
réduits au silence,
leaving their fate to chance,
en confiant leur destin au hasard.
Voilà, puis je vais faire une petite coda donc.
Une coda, c'est un morceau que tu rajoutes à la fin, c'est ça?
C'est ça, un petit épilogue. 77,
77.
Infinite heaven,
les cieux infinis,
millennia to come,
les millénaires à venir,
what shall they become,
que vont-elles devenir,
etc., etc. Et donc on fait un fade out.
Oh, c'est joli comme fin. J'espère qu'Alexandre saura en rendre toute la poésie.
Naturellement.
C'était le modèle standard
par Nicolas Graner et Valentin Vinal. La chanson
Modern Voyage
est interprétée et produite par Alexandre Le Nagar. Cet épisode est diffusé sous licence Art Libre. Retrouvez-nous sur
lemodèlestandard.fr.